Vous écoutez France Culture.
Nouvelle édition de l'économie en question, nous sommes en direct de notre studio de la Maison de la Radio où nous retrouvons comme chaque samedi quatre experts, économistes, chercheurs et ou professeurs d'économie pour commenter l'actualité de cette semaine, pour rapprocher, pour opposer leurs analyses et pour les rapporter s'ils le jugent utile à la théorie économique. Nos deux thèmes ce matin. Pour la France d'abord, sans surprise sans doute, l'inflexion sensible de la politique du gouvernement en direction des entreprises, celles qui vont de l'avant, celles qui sont en difficulté, des entreprises de taille intermédiaire et les PME. Objet de toutes les attentions, sous l'œil vigilant, satisfait, critique ou circonspect des partenaires sociaux et des politiques de tous bords. François Hollande est revenu jeudi, c'était à Toulouse, sur le chantier de la simplification, déjà annoncé en 2013. Et il l'a lancé, nous en avons déjà parlé, le pacte de responsabilité lors de ses vœux de 31 janvier dernier. Dans la droite ligne donc du crédit d'impôt compétitivité emploi, le fameux CICE, censé réduire les coûts des entreprises de 10 milliards d'euros cette année, de 20 milliards en 2015. La question du travail, du coût du travail, revient donc ainsi sur le devant de la scène. Sur tous les effets de ces mesures, sur les réactions qu'elles suscitent et bien entendu sur la qualification qu'il convient de donner à cette politique, débat et commentaires dans un instant. France 2014, tout pour l'entreprise, c'est notre premier titre. Deuxième sujet à l'international, nous intéresserons à la Russie dans les mauvais chiffres. Et pas seulement ceux de la croissance du PIB paru au dernier trimestre ont alerté beaucoup d'observateurs, mais n'ont peut-être pas surpris les spécialistes de ce pays. Quelles évolutions prévoir, quelles conséquences pour la région et pour ses partenaires, les partenaires de ce grand pays, donc à un mois des Jeux de Sotchi. La Russie affaiblit dans le monde émergent, c'est notre second titre. Et puis nous réserverons une troisième séquence, comme nous le faisons chaque samedi, pour nos actualités dites invisibles, celles que nos invités repèrent pour nous et qu'ils jugent bon de nous signaler. C'est bien l'économie en question. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et je vous présente tout de suite mes invités. En réalité, je n'ai pas à vous les présenter, ils sont souvent ici dans l'émission. Philippe Askenazy, directeur de recherche au CNRS. Olivier Pastret, professeur d'économie à l'Université de Paris 8. Philippe Martin, professeur d'économie à Sciences Po. Et Xavier Timbaud, directeur du département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bienvenue à tous les quatre. On commence donc par le sujet sur la France. C'était votre choix. Je vois qu'Olivier Pastret est déjà prêt. François Hollande, donc prêt à simplifier la vie des entreprises après d'autres mesures que j'ai rapidement résumées, Olivier.
Non, juste une remarque. Je voudrais vous reprendre ce qui ne m'arrive que très rarement. Vous avez dit qu'il y a eu une inflexion de la politique économique. Je ne crois pas du tout. Il y a eu une inflexion du discours sur la politique économique. En tout cas, c'est mon sentiment. Depuis le début de ce quinquennat, il y a eu un certain nombre de mesures et de réformes qui concernent directement les entreprises, parce qu'on a accessoirement découvert il y a quelques années, en tout cas depuis l'éclatement de la crise, que pour créer les emplois, il fallait des créateurs d'emplois, donc les entreprises, ce n'était pas complètement indifférent. Si on prend le pacte de compétitivité, si on prend la réforme de la formation professionnelle, dont on dira peut-être un mot qui me paraît absolument essentiel, peut-être pas parfaite, mais en tout cas essentiel, si on prend le choc de simplification, ça fait déjà trois séries de mesures qui sont en cohérence. Alors ce qui a changé, c'est le côté coming out, c'est-à-dire que maintenant on le dit, on l'affirme, on l'affiche, mais sur le plan de la politique économique, il y a une relative cohérence, me semble-t-il.
C'était une observation. On peut revenir un petit peu plus tard peut-être sur justement le jugement que l'on peut porter, la qualification effectivement de cette politique conduite et ses éventuels changements ou pas. C'est vrai qu'il y a des analyses assez divergentes à ce sujet ces jours-ci. Je reviens sur cette simplification de la vie dans l'entreprise. Il en avait été question donc avant, de fin de l'année 2013, et ça a été à nouveau annoncé par le chef de l'État qui annonce qu'il souhaite réduire, je le cite, la redondance. Les mêmes informations peuvent être demandées parfois jusqu'à 15 fois par les administrations à une même entreprise. Les entreprises le savaient bien, cela. Il est bon que le gouvernement le constate et qu'il s'engage à une lutte contre la prolifération également des normes. 2000 lois, 26 000 décrets produits chaque année, nous dit François Hollande. Il faut donc remédier à cette aberration avec la disposition « une norme créée, une norme supprimée ». Celle-ci avait été créée, cette disposition, au printemps dernier. D'autres dispositions, dites-le nous une seule fois, qui seraient à l'horizon 2017. Ce sont peut-être des slogans, mais on voit bien à quel point cela peut donner un coup de main aux entreprises. On parle de cette simplification, c'est important sur le plan économique, ça peut faire une différence assez significative. Qui veut réagir, Philippe Askenazy?
Je pense que ce n'est pas si massif que cela pour les entreprises. Effectivement, ça induit certains coûts de devoir respecter toute une série de réglementations ou de devoir donner toute une série d'informations. Mais il ne faut pas, là aussi, surexagérer. La France n'est pas un pays particulièrement producteur de normes. Déjà, beaucoup des normes qui existent en France sont des normes qui viennent du droit européen. Donc, oui. On applique simplement un chapeau de normes qui est valable pour l'ensemble du continent. Et lorsqu'on regarde globalement les tailles des différents codes juridiques qui concernent les entreprises, que ce soit le code du commerce, le code du travail ou autre, il n'est pas si spectaculairement gigantesque en France lorsqu'on le compare à d'autres pays. Et lorsqu'on regarde sérieusement la situation, il y a des complexités qui ont lieu partout dans tous les pays. Alors, il n'empêche qu'il y a effectivement des éléments certainement d'aberration qui méritent une réflexion parce qu'on on rajoute des couches sans nécessairement rationaliser par rapport aux couches précédentes. Mais il ne faut peut-être pas aller non plus systématiquement trop loin dans un choc de simplification. Ce qu'on voit, notamment, on va avoir, notamment pour les petites entreprises, des obligations déclaratives maintenant sur les résultats des entreprises qui vont être largement allégés. Et je peux vous dire que pour nous, économistes, c'est une catastrophe, dans le sens qu'on va manquer maintenant d'informations sur tout un champ des entreprises françaises et on va avoir les pires difficultés pour faire des évaluations, même des politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui, comme le CICE, parce qu'on aura un grand blanc sur
des
entreprises françaises. Donc, il y a toujours un arbitrage à faire entre ce qui est l'intérêt collectif de récolter un certain nombre d'informations, de mettre un certain nombre de réglementation de normes, et puis effectivement, des éléments qui peuvent paraître ubuesques ou bien simplement prendre en compte le fait que maintenant on a des systèmes d'information qu'on est capable de connecter entre eux et qui effectivement peuvent éviter que l'on demande de manière redondante le même type d'information à des entreprises.
Oui, vous voulez tous réagir à cette remarque de Philippe Askenazy que je n'attendais pas pour ma part, Philippe Martin.
Oui, c'est bien connu que la France a des statistiques sur ses entreprises qui sont excellentes. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de chercheurs étrangers qui viennent en France pour travailler sur les statistiques françaises d'entreprises, hein, parce qu'elles sont excellentes. Donc, mais en même temps, j'aurais tendance à dire que si le coût d'une simplification, c'est qu'il y ait moins d'économistes étrangers qui viennent travailler sur les entreprises françaises, mais que ça a un gain en termes de croissance, je pense que bon, les économistes vont peut-être un petit peu pleurer, mais c'est pas dramatique. Il faut quand même voir que la France est quand même au-dessus de la moyenne en termes de réglementation par rapport à l'OCDE et que ça a un coût. Ça a deux types de coûts. Hein. Ça a un coût en termes d'efficience, simplement parce que les entreprises passent du temps à essayer soit de se mettre en accord avec ces réglementations, soit au contraire de les détourner. Et du coup, l'administration passe aussi du temps à contrôler toutes
ces détournements.
Exactement. Donc, ça fait des dépenses publiques et ça fait des dépenses privées pour les entreprises. Et puis, il y a un deuxième coût, et qui, à mon avis, est plus important pour la croissance, c'est que toutes ces réglementations, ce sont aussi des barrières à l'entrée. Et ce sont des barrières à l'entrée pour un certain nombre d'entreprises qui voudraient rentrer sur le marché. Et on sait que la croissance à long terme, c'est surtout ces entreprises qui rentrent sur le marché, qui à terme sont les plus productives, et donc qui vont tirer la croissance. Et donc là, il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent que la croissance de long terme, elle est liée aussi au fait que on empêche ou au contraire, on favorise l'entrée des entreprises sur le marché et les réglementations sur le marché du travail, sur le marché des biens, etc. etc. C'est important. Donc ça a un effet sur l'entrée. Et puis évidemment, ça a aussi un effet sur la concurrence. Si on ne laisse pas rentrer les entreprises parce que les réglementations sont un coût à l'entrée, et ben, ça a aussi un impact sur la concurrence et donc sur l'emploi, sur les prix, etc. etc.
Avant d'entendre Xavier Timbaud, juste deux remarques sur ces, enfin deux informations hein, sur ces mesures qui vont être prises. Par exemple, la déclaration sociale nominative, je pense que les chefs d'entreprise reconnaissent ces termes, un dispositif qui va permettre d'automatiser, via la feuille de paie, les déclarations aux organismes sociaux et donc de gagner beaucoup de temps. 100 000 entreprises peuvent y accéder à la fin de 2014 et 2 millions à partir de 2015. Autre mesure de simplification, l'extension du rescrit. C'est un terme assez peu courant, mais je pense que vous le connaissez. Il s'agit pour une entreprise d'avoir l'assurance, on peut les comprendre, que la législation et la fiscalité en vigueur au moment du lancement d'un projet ne vont pas changer durant le temps de sa réalisation. Là, c'est une allusion quand même à toutes les mesures
juste un tout petit point,
fiscales en cascade.
Je crois qu'il faut, lier l'abus de réglementation en France au problème de la méfiance et de la confiance. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles on a toutes ces réglementations, c'est que l'administration ne fait pas confiance aux entreprises. Et il y a cette méfiance dont on sait qu'elle est extrêmement forte en France. Et donc, tout ça fait partie d'un même système qu'il faut essayer, d'alléger.
Xavier Timbaud.
Oui, plusieurs commentaires. Bon, on a quand même tendance à avoir vite un discours schizophrénique sur les normes et les réglementations. Alors, d'un côté, oui, les normes et les réglementations sont un coût. Ça provoque de l'administration et du respect des normes, voire de la tricherie avec les normes et les réglementations dans les entreprises. Du coup, il faut contrôler. Mais c'est vrai aussi qu'on peut réduire les dépenses de police et de gendarmerie en rendant légal le vol. Donc, ces coûts-là, ils ne sont pas des coûts en soi, ils sont des coûts parce que de l'autre côté, ce serait pire de ne pas avoir des normes et des réglementations. Et c'est cet aspect-là qu'il ne faut pas oublier. Les normes et les réglementations, ça sert à quelque chose. Enfin, on a tous été très émus par la viande de cheval dans les raviolis. On a tous été très émus par les questions de régulation financière, de shadow banking, de tricherie, etc. Donc, et là, dans ce cas-là, le réflexe de tout le monde, c'est de dire il faut plus de règles, il faut plus de gendarmes, il faut plus de pouvoir aux autorités pour réglementer. Et c'est comme cela que la concurrence sera organisée de façon juste. C'est-à-dire que c'est précisément en définissant des normes et des réglementations qu'on définit un rôle de fonctionnement des économies, un mode de fonctionnement des économies qui assure la justice. Alors après, il y a un autre aspect qui est très important, c'est qu'il y a des approches différentes qui sont souvent un peu oubliées entre, par exemple, la France et les pays anglo-saxons, en particulier les États-Unis, qui est qu'en France, on a tendance à avoir des règlements qui définissent en fait une relation entre l'administration et les entreprises et qui effectivement conduisent à des coûts administratifs et à une apparente lourdeur administrative d'un côté. Et puis de l'autre côté, aux États-Unis, on a l'impression d'avoir un dispositif plus simple, mais qui en fait est très juridifié. C'est-à-dire que beaucoup des conflits sont traités par des tribunaux et par de la jurisprudence. Ce qui conduit à ce qu'il n'y a pas de coûts administratifs, mais il y a des coûts juridiques qui sont très élevés, avec des risques juridiques qui sont aussi très élevés. Donc, généralement, quand on simplifie les réglementations, en fait, on pose des principes. Et si on pose des principes, on remet au juge de traiter les cas particuliers qui sont traités normalement ou ailleurs dans la réglementation. Philippe Eskenazi disait qu'il fallait regarder très sérieusement la taille du Code du travail. Il a profondément raison. Le Code du travail en France est assez simple. Ce qui le rend complexe, c'est toutes les annexes,
juste,
en quelque sorte.
Juste 3500 pages.
C'est, ce qui le rend complexe, ce sont toutes les annexes qui viennent définir toute une série de cas particuliers. Mais quand vous travaillez dans une entreprise, la partie du Code du travail qui s'applique à votre entreprise est en fait toute petite. Est-ce qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus simple? Ben non, c'est pas beaucoup plus simple, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir compte de la jurisprudence qui définit les relations entre les employés et leur employeur, entre les prestataires et leurs commanditaires, entre les entreprises et leurs consommateurs. Et cette jurisprudence est d'une complexité qui est en fait beaucoup plus grande que le Code du travail. Et donc, il faut se garder d'un discours simpliste qui consiste à dire et à brandir un Code du travail épais en disant « regardez la source de nos problèmes ».
Eh bien, je vais faire simpliste.
Olivier Pastret.
Parce qu'on croit rêver. Enfin, je veux dire, si on regarde un certain nombre d'études sérieuses, Philippe, je vous rassure, il y a une analyse sur le surcoût de la réglementation en France, notamment les travaux de l'OCDE, qui montrent que dans ce domaine-là, on est quand même plutôt en retard par rapport aux autres pays en matière de simplification. Mais le seul sujet, après qu'on ait de bonnes ou mauvaises statistiques, franchement, c'est, on n'a eu pas le sujet aujourd'hui. Le vrai sujet, celui qu'a évoqué Philippe
ça
Martin,
compte quand même, ouais.
Sur lequel... Non mais attendez, franchement, aujourd'hui, le problème, c'est de ne pas avoir de Goodyear, c'est pas d'avoir un INSEE qui a deux statistiques en plus. Le vrai problème, me semble-t-il, en tout cas c'est ma position, c'est celui qu'a évoqué tout à l'heure Philippe Martin sur les barrières à l'entrée. Il y a, face à la réglementation, une différence très marquée entre les grandes entreprises et les PME, et même pas les PME, les toutes petites entreprises, qui sont incapables de faire face à l'accumulation de réglementation. Et petite remarque qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, le problème du trop de réglementation, est-ce qu'il y en a trop ou pas, je ne tranche pas, je pense qu'il y en a trop, c'est que la réglementation n'est pas appliquée. Or, notamment en matière de droit du travail, un des vrais problèmes en France, c'est que les règles, dont les bonnes, ne sont pas appliquées, parce qu'il y a trop de règles et pas assez. Je reviens à la comparaison entre la France et les États-Unis. C'est vrai qu'il y a une dérive juridique aux États-Unis. À mes yeux, le problème, c'est pas d'avoir beaucoup de règles, c'est d'avoir beaucoup de flics. Et je pense que si on veut arriver à mettre en œuvre une réglementation peut-être minimale, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui observent que la réglementation est appliquée.
Ouais. En fait, en parlant des petites entreprises, on peut imaginer qu'elle se félicite d'entendre que désormais elles pourront répondre par exemple à un marché public avec un seul numéro de SIRET, enfin, ce sont toutes des choses très pratiques mais qu'elles vivent au quotidien, ou que les procédures par exemple pour les prêts à l'export vont être dématérialisées, unifiées, simplifiées, autant de mesures. Philippe Martin, je voudrais qu'on ne reste pas que sur la simplification, on parle de l'entreprise
pour
en général.
Pour réagir à ce que disait Xavier Tambo sur les réglementations, parce qu'on a l'impression à l'entendre que les réglementations sont une réponse à une demande sociale forte. Et parfaite. Il faut bien voir que les réglementations, très souvent, elles viennent de lobbies industriels, d'entreprises qui sont déjà sur le marché et qui font du lobbying auprès du ministère de l'Industrie ou tel ministère pour justement mettre en place des réglementations qui permettent d'empêcher l'entrée de nouvelles entreprises. Donc, c'est pas toujours une réponse à une demande sociale et il faut bien voir cet aspect.
Oui, enfin, le code du travail n'est pas dans cette catégorie-là. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse dire ça.
On ne parle pas que des réglementations sur le marché du travail. Il y a plein d'autres réglementations.
Tout bêtement, le chiffre qui a été cité, soit par le président de la République, soit dans les commentaires immédiats, sur les normes en matière de construction immobilière, je crois qu'il y a plus de 3000 normes aujourd'hui, et dont une partie sont évidemment le produit d'un travail de lobbying, et ça a un effet contre-productif absolument évident.
Dernier mot sur cet aspect. Je voudrais qu'on passe à d'autres, qu'on parle surtout du coût du travail, même si cela en fait partie.
Peut-être ça va faire justement transition, parce que je rejoins en partie Philippe Martin, parce qu'une grande partie, par exemple, du droit du travail français est un droit qui vient d'un droit conventionnel, c'est-à-dire des conventions collectives qui sont signées. Or, il y a beaucoup de conventions collectives qui ont des dispositions qui sont en fait des dispositions qui sont des barrières à l'entrée pour de nouveaux acteurs. Oui. On le voit par exemple dans la convention collective de la grande distribution, on voit qu'elle est calqué sur en fait les accords d'entreprise des grands groupes français, les Carrefour, Auchan, etc. Et c'est une barrière, c'est un des éléments de barrière à l'entrée. Et on le voit même aujourd'hui, et ça va faire un petit peu la transition. Vous voyez, on dit, on fait un choc de simplification, on permet aux magasins de bricolage d'ouvrir le dimanche. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un accord qui soit conclu entre les partenaires sociaux de la branche sur les compensations. Et là, vous en êtes parti
pas très
sur
bien,
une très
pour
grande liste de compensations données aux salariés. Donc le résultat, ce n'est pas un choc de simplification que l'on fait là, en l'occurrence. On dit, on simplifie, on va pouvoir ouvrir. On va avoir une rigidification des conditions d'ouverture. Et là, très probablement, ça va être calqué sur un élément nouveau de barrière à l'entrée d'acteurs potentiels qui voudraient rentrer sur le marché français et qui ne pourront pas y rentrer parce que on va donner un certain nombre d'avant... Enfin, ça va être calqué avec les pratiques qui sont celles des acteurs déjà en place, les Leroy Merlin, etc. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on a, et pour aller vers la transition, on fait une logique qui est les acteurs en place. Et ça, je crois que c'est vraiment le cœur de la politique aujourd'hui. On fait une politique non pas pro-entreprise en général, pas une politique de l'offre, mais on fait une politique pour les acteurs entreprises qui sont aujourd'hui présents sur les marchés français. Et c'est cela que l'on cherche à renforcer. Et en soi, c'est un gros pari politique que fait aujourd'hui le gouvernement et François Hollande.
Avec une méthode, si je vous entends bien, qui vous paraît un peu défensive.
Ben, c'est un petit peu... Enfin, je ne sais même pas si c'est défensif. On peut l'interpréter soit avoir effectivement très défensif sur les acteurs déjà en place en se disant il faut maintenir l'emploi, ou bien on peut avoir une autre interprétation qui est tout simplement qu'on a un pouvoir qui est aux mains de lobbies qui sont déjà en place et qui obtiennent toute une série d'avantages qui leur permettent de renforcer leur position actuelle. Je ne tranche pas sur les deux interprétations. Je dis simplement qu'on peut avoir les deux interprétations.
On n'a pas lu le même livre. Moi, ce qui me paraît... Alors, je ne conteste pas ce que vous dites, je dis simplement, moi ce qui m'a paru important dans l'esquisse d'amorce d'embryon d'accord sur l'ouverture du travail du dimanche, et là on n'est pas vraiment dans l'aspect simplification, c'est pousser à la négociation au niveau des entreprises. Un des problèmes en France, tous les problèmes sont solubles si on les pose, c'est qu'on a une habitude de centralisation des négociations, là on parle du domaine social, qui complique un peu l'exercice. Et les petits progrès qui ont été faits en matière de discussion concernant le travail du dimanche, c'est qu'on donne aux entreprises la possibilité de négocier, avec heureusement un certain nombre de contraintes pour ceux qui emploient les salariés qui travaillent le dimanche.
Ce qui nous amène donc aux autres mesures prises en faveur de l'entreprise. Et là encore, je voulais entendre vos analyses. D'abord, ce court sondage, 7 Français sur 10 se dirait favorable au pacte de responsabilité. Il est même plébiscité par l'électorat de gauche à plus de 81%. Mais il satisfait beaucoup aussi le nouveau patron du MEDEF, Pierre Gattaz. Très content, dit-il, des déclarations du président lors de ses vœux. Nous partageons le même objectif, c'est l'emploi. Et donc très, très partant pour les discussions. Ce qui suscite d'autres commentaires, effectivement, sur le virage ou pas qu'aurait pris le gouvernement de François Hollande vers une politique beaucoup plus sociale, libérale. Tant qu'il mettait des partenaires sociaux dans la boucle, on était dans la social-démocratie. Désormais, s'il considère comme partenaire principal le MEDEF, puisque avec le pacte de responsabilité, il s'adresse à l'entreprise directement, Hollande ne se place-t-il pas sur un terrain plus social-libéral? C'est une question un peu politique, mais sur le plan de l'analyse économique, je voulais avoir vos avis là-dessus. Philippe Martin.
Oui, bah, la question, bon, donc c'est la question de ce qu'on appelle le socialisme de l'offre. Est-ce qu'il y a un tournant? Si on réfléchit à ce que serait le socialisme de l'offre, c'est en gros une baisse des charges, le choc de simplification, et puis à plus long terme, parce qu'il faut bien que ce soit financé, hein, cette baisse des charges, et je crois qu'on va en parler, c'est une baisse des dépenses publiques et une baisse des impôts. Mais à quel rythme, exactement comment on va le faire, c'est encore très très flou. Enfin, je veux dire, on n'a pas du tout de choses précises dans ce pacte de responsabilité. Donc, quand on voit que tout le monde est d'accord sur ce pacte de responsabilité, c'est parce que je pense que personne ne sait exactement ce qu'il y a derrière et comment en particulier on va le financer. Si on parle de la baisse des charges, sur lequel moi je suis favorable, parce que je considère en particulier pour les non-qualifiés et les jeunes qu'il y a un vrai problème du coût du travail, et on en reparlera peut-être. Il va bien falloir se poser la question comment on le finance. Et comment on le finance? Est-ce que ça signifie à nouveau peut-être une augmentation de la TVA ou à terme une baisse des dépenses publiques? Et donc ça veut dire qu'il faut nous préciser quelles sont les dépenses publiques qu'il va falloir baisser. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais je crois qu'il y a une certaine cohérence qu'il faut avoir. Hein. Mm-hmm. On ne peut pas dire à la fois qu'il faut baisser les charges et pas dire à la fois... soit on augmente d'autres impôts, soit on baisse les dépenses publiques. Mais il est clair, je crois qu'il y a une inflexion. Il y a eu une première phase du quinquennat où c'était une phase d'ajustement budgétaire avec augmentation très forte des impôts, hein, qui a eu un impact très fort aussi sur la croissance, parce que la France s'est mise dans des contraintes européennes. Et maintenant, on a l'impression que cette phase est peut-être pas derrière nous, mais qu'elle est en train de s'amoindrir. Hein, et peut-être il va y avoir des réformes réforme, mais pour le moment, c'est encore très flou. Mais je pense que c'est très important qu'on se pose la question sur l'impact du coût du travail. Est-ce que c'est important? Et là, il y a un débat d'économistes qui est assez vigoureux.
En effet, vous voyez, le terme d'inflexion est repris par Philippe Martin, Olivier Pastret, mais on va entendre votre avis aussi, Xavier Tarnot.
Pour moi, il n'y a pas franchement d'inflexion, parce que pour vraiment faire...
De partout.
De pour partout faire, non, mais pour vraiment pour faire de l'histoire très grossière de la pensée des idées et des idées politiques récentes, il y a une opposition depuis les années 70, en ce qu'on appelle la première gauche, qui est la gauche qui nationalise, disons, et qui est dans une vision... De socialisme, disons, réaliste, mais qui reste quand même très lutte des classes. Il faut défendre les ouvriers face aux patrons. Avec ce qu'on a appelé la deuxième gauche dans les années 70 avec Rocard, qui est, on est dans une économie de marché, et donc les entreprises sont un acteur de l'économie de marché avec lesquelles on ne peut pas tenir un discours diabolisant et où on doit éventuellement structurer, organiser et mettre le curseur dans les négociations sociales, mais où il faut laisser une place à l'entreprise et au marché. Et l'opposition se fait avec la droite républicaine du type, par exemple, celle des États-Unis, qui dit, en fait, il faut baisser les impôts des riches. Donc, la catégorisation se fait à ce moment-là plus dans ce qu'on appelle la distribution secondaire du revenu ou les politiques de redistribution par l'impôt. Donc, je ne pense pas que François Hollande nous surprenne beaucoup en nous révélant qu'il appartient à la deuxième gauche. C'était déjà vrai. Moi, je pense que, plutôt, François Hollande a fait face à un triangle d'impossibilité, qui est que, quand il est arrivé au pouvoir, malgré tout ce qu'il pouvait penser de la deuxième gauche, il s'est trouvé face à une difficulté, une contradiction, qui était qu'il fallait... Il fallait soit choisir d'augmenter la dette et de ne pas réduire les déficits et de pouvoir avoir les marges de manœuvre pour mener une politique éventuellement de baisse de charges, de pacte de responsabilité avec les entreprises pour qu'elles investissent et que demain elles soient productives. C'est le fameux théorème de Schmitt, qui reste un théorème... ça fait partie des théorèmes en économie qui ne recevront jamais de démonstration, donc il reste, disons, plus une idéologie qu'un théorème. Les marges de manœuvre pour faire ça, et en fait il n'avait pas les marges de manœuvre pour faire ça, en tout cas il a choisi de ne pas les avoir, il a choisi de s'en tenir à l'objectif de 3%, ce qui l'a conduit à l'impossibilité de faire quoi que ce soit.
Et donc à cette...
Et donc à cette situation. Bon, alors ça c'est un premier point. Le deuxième point qui est quand même important dans ce triangle d'impossibilité...
Olivier a envie d'intervenir, mais allez-y, terminez, Xavier.
C'est que, comme par ailleurs la crise que nous sommes en train de traverser depuis 2008 est une crise qui est généralisée, dans laquelle toute l'Europe s'est engagée, dans laquelle toutes les impossibilités ont été à peu près les mêmes pour tous les pays, et les choix ont été à peu près les mêmes, on se retrouve aujourd'hui embarqué dans ce qui ressemble de plus en plus à une déflation salariale, et dans lequel cette course à la compétitivité par rapport à notre voisin européen s'auto-entretient. On a fait le CICE, il a un impact sur le coût du travail, l'INSEE vient de publier quelques éléments là-dessus, ça a un impact entre 1 et 2% du coût du travail dans les différents secteurs, mais en fait le problème c'est que l'avantage du CICE, il a été perdu par la déflation qui se produit aujourd'hui en Espagne ou au Portugal, et qui sont des concurrents qui arrivent de l'autre côté. Et oui. Et donc, on se retrouve pris dans la limite de cette politique européenne où chacun regarde son nombril, se dit « il faut que je sois plus compétitif ». Tout le monde fait pareil. Comment on essaye d'être plus compétitif? Pas en étant plus productif ou en ayant de l'innovation ou en ayant des choses qui pourraient créer de la valeur, mais en essayant de réduire au maximum le coût du travail. Alors, on fait des baisses de charges en France pour pas toucher au salaire que touchent les gens, mais il va falloir augmenter les impôts pour financer ça, donc ça va quand même diminuer le revenu, ou on pourrait baisser directement le salaire, on pourrait se poser la question de réduire le SMIC, parce que ça va être à un moment donné un élément de compétitivité important, parce que en plus il y a plus de concurrence sur les non-qualifiés ou sur les jeunes, donc peut-être que le SMIC va être un obstacle à l'emploi des jeunes, et donc on va dire que ça serait mieux de le baisser, parce qu'après tout il vaut mieux avoir moins de salaire et un emploi, et on va être parti dans cette spirale, qui va finir par être problématique. Elle nous rappelle ce qui s'est passé dans les années 30.
Oui, mais c'est le SMIC, c'est pas tout à fait ce que souhaite la CGT, puisque j'ai cité Pierre Gattaz, je peux dire la déception de Thierry Lepan, qui ne reconnaît pas du tout dans ce discours nouveau de François Hollande. Enfin, il juge lui un tournant très, très important, il n'y reconnaît pas du tout ce qu'avait dit Jean-Marc Ayrault en lançant la concertation sociale. Il faut quand même le préciser. Et notamment, il regrette le coup de pouce au SMIC qui n'est pas intervenu.
Encore une fois, Olivier, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a une vraie inflexion au-delà du discours ou pas ? C'est un vrai sujet. Moi, je plaide pour le fait qu'il n'y en a pas vraiment. Pierre Gattaz, il aurait mieux fait de se tirer une balle dans le pied plutôt que de faire sa déclaration, parce qu'il a discrédité la proposition encore assez floue, ça a déjà été évoqué, qui a été faite par le président de la République en matière de baisse des charges, alors qu'il me semble que le président de la République adopte une politique du step by step, pas à pas. On fait des réformes. Il y a une réforme qui me paraît extrêmement importante, mais qui est encore une fois dans le fil d'une amélioration du fonctionnement du marché du travail. Je ne parle pas du coût du travail. C'est la réforme de la formation professionnelle. Alors, tous ceux qui ont travaillé sur le sujet regrettent que cette réforme n'ait pas été plus ambitieuse, qu'on n'ait pas à l'occasion réglé le problème du financement des syndicats. Enfin, il y a plein de... Mais on a fait quelque chose qui, à mes yeux, est absolument essentiel. C'est qu'on a donné aux salariés le droit d'être propriétaires de leur expérience et de leur capacité de formation. C'est quand même un pas en avant. Peut-être insuffisant, mais quand même significatif.
D'autant que c'était une réforme qu'il fallait faire depuis longtemps.
Depuis 30 ans. Là où il y a une petite inflexion, me semble-t-il, et là je rejoins le camp de ceux qui pensent qu'il y a une vraie inflexion, c'est, je l'ai dit en deux mots, sur le lieu de discussion. Et sur le travail le dimanche et sur l'accord de janvier dernier sur la flexisécurité, on donne en France la priorité aux négociations d'entreprise. Je ne dis pas que c'est parfait, je dis que je pense que les négociations étaient trop centralisées et que l'Allemagne, où la négociation se fait très globalement au niveau de l'entreprise, ça a l'air de marcher plutôt bien. Et là, il y a une évolution.
Là, on y est effectivement. C'est d'ailleurs souligné par d'autres. Philippe Askenazi, on continue encore un petit peu sur ce point. Peut-être aussi sur le financement, demander notamment le financement de la protection sociale, la fiscalité d'entreprise, si on a le temps d'en dire un mot.
Oui, d'ailleurs, c'est bien que vous parliez de mode de financement de la protection sociale, parce que j'écoutais mes collègues et finalement, c'est quand même une réussite du MEDEF. C'est-à-dire il faut remonter dans les années 80. On parlait à l'époque de cotisations sociales que payaient les entreprises. Et l'ancêtre du MEDEF, qui était le CNPF, a fait une stratégie de communication qui était d'imposer le mot charge à la place du mot cotisation. Le mot cotisation finançait de la protection sociale et on remplaçait ça par des charges qui pesaient sur les entreprises. Et on voit le résultat 30 ans après, on a des économistes éminents qui n'emploient pas le bon terme, qui n'est pas le terme qui doit être le terme légal même pour décrire les cotisations que payent les entreprises, mais on emploie le mot charge. Et donc c'est une réussite profondément idéologique et on le voit sur toute une série de mots. C'est très intéressant de regarder ce sujet-là. Et donc de fait, si vous voulez, je crois que aussi François Hollande est une des personnes qui a été porteur de ce discours-là. Et c'est intéressant de voir qu'il a été magistrat à la Cour des comptes, et lorsqu'on regarde ce qu'il avait pu produire comme type de rapport ou co-signé de rapport dans les années 1990, eh bien il y avait déjà tous les germes de la politique qu'il mène aujourd'hui. Alors une politique qui quand même, je rejoins quand même un petit peu un élément d'inflexion, c'est-à-dire dans la première partie de toute la première année, on a plutôt été dans une politique de cadeaux aux entreprises. C'est-à-dire, typiquement, il y avait le crédit d'impôt recherche, par exemple. On sait que c'est un dispositif qui est peu efficace. Au sein du Parti Socialiste, il y avait une quasi-unanimité pour le supprimer. François Hollande a dit « on le conserve et on fait ce cadeau aux entreprises ». On sait que c'est un cadeau. Bon, maintenant, on rentre dans une autre logique. Il s'agit non seulement de donner de l'argent aux entreprises, mais il faut essayer d'obtenir de la part de ces entreprises que ça se traduise, non pas par une augmentation de leur marge, de leur profit, mais que ça se traduise réellement par des créations d'emplois. Et donc, sur ce plan-là, je crois que quand même, il y a un élément d'inflexion. On en a fini avec les cadeaux purs et on espère que les cadeaux suivants, eh bien, le patronat fera en quelque sorte l'effort pour créer de l'emploi en France. C'est un petit peu la même logique qu'il y a eu sur l'encadrement des hautes rémunérations. Il y a eu un moment, une décision de Hollande qui a été on ne fait pas d'encadrement légal, on laisse s'autoréguler les entreprises. Et on l'a vu le camp de l'ancien patron de PSA, que le MEDEF lui-même est intervenu pour faire fonctionner cette sorte de soft law, en quelque sorte, qui a été mise en œuvre. Oui. On va voir là si, effectivement, Pierre Gattaz, je crois qu'il veut que la stratégie de Hollande fonctionne. Personnellement, je suis très dubitatif, parce que, effectivement, aujourd'hui, on donne de l'argent aux entreprises, mais on ne sait pas comment on va le financer. Et ça risque d'être un choc macroéconomique absolument considérable de devoir soit augmenter, par exemple, la CSG pour compenser pour le financement de la protection sociale, augmenter la TVA, baisser des prestations sociales. Tout cela sera un choc prolongé pour l'économie française. Le résultat final est très difficile à saisir. C'est peut-être plus un macroéconomiste comme Xavier Tambaud qui peut avoir une idée là-dessus.
Oui. Juste une petite précision sur ce que vous disiez, hein, sur la question du financement de la protection sociale. Le ministre de l'économie, donc Michel Sapin, sur France Culture d'ailleurs, c'était il y a quelques jours, revenait là-dessus. Est-il légitime et normal, nous disait-il, que par exemple la branche famille soit financée par le travail ? Non, ça n'est pas légitime. On rappelle que effectivement les cotisations patronales qui financent la branche famille et la sécurité sociale représentent 35 milliards d'euros. Ça avait été instauré en 1945. Dans le cadre d'ailleurs d'une politique d'encouragement de la natalité. Donc peut-être qu'il est temps effectivement d'y réfléchir. Je voudrais qu'on termine sur ces questions, mais je vous vois encore envie d'intervenir, Philippe Martin.
Juste un petit point, parce que je crois que c'est important de donner des résultats d'études sur l'impact du coût du travail, baisse des charges ou des cotisations, ouais. Qui de toute façon reste un coût du travail pour les entreprises. Il y a un certain nombre d'études sur la France. C'est très différent aux États-Unis parce que là, par exemple, le SMIC aux États-Unis est très très bas, donc ça n'a rien à voir aux États-Unis. Mais sur la France, quand même, on sait que il y a un certain nombre d'études. Je cite Cahuc et Carcio, mais il y en a d'autres qui montrent qu'une baisse du coût du travail au niveau surtout du SMIC, hein, c'est-à-dire c'est en particulier pour l'emploi des qualifiés.
Une baisse du SMIC.
Et des jeunes. Non, c'est une baisse du coût du travail au niveau du SMIC. Ça peut se faire aussi par une baisse des charges.
Des cotisations sociales, donc.
Ah, ou des cotisations voilà. Sociales.
Si vous préférez. C'est pratiquement nul, désormais, au niveau du SMIC.
Donc à ce niveau, une baisse de 10% des charges, ça fait à peu près 1 à 2% d'emplois. Et de ce point de vue, oui. Le CICE n'a peut-être pas été très efficace parce que justement, il n'était pas concentré sur les bas salaires. Et il a été. Et on sait qu'en fait, quand on baisse les charges à 1,3, 1,4, 1,5 SMIC, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les entreprises n'augmentent pas l'emploi, mais elles augmentent plutôt les salaires. Donc en fait, il faut concentrer cette baisse du coût du travail sur les bas salaires. C'est ça qui est le plus efficace.
On en reste là pour ce matin. Nous aurons certainement l'occasion de revenir. Il y avait beaucoup d'autres sujets que j'aurais aimé aborder. On n'a pas du tout parlé du ministre Arnaud Montebourg. Pourtant, le soutien à l'entreprise française, le Made in France, qui ne semble pas convaincre tant que ça. Les entreprises...
Non, je crois qu'il faut faire une émission sur la politique industrielle en France, peut-être.
Nous l'avions déjà faite, mais on y reviendra, c'est promis, comme on reviendra d'ailleurs à la formation professionnelle qui mérite bien un sujet.
On pourra même parler de la politique industrielle en Europe.
À elle toute seule. D'accord, c'est promis, on enregistre tout ça pour 2014, nous avons tout le temps. Revenons à présent sur notre deuxième sujet, nous souhaitions parler de la Russie. Nous sommes à un mois des Jeux d'hiver de Sochi, pour lesquels la Russie dépense une somme considérable. C'est ce que vient de nous annoncer le comité olympique, je crois. C'est lui qui s'est prononcé là-dessus. On parle de 50 milliards de dollars. Juste pour mémoire, mais le chiffre n'est pas très facile à vérifier, dit-on. Il serait autour de 40 milliards pour les Jeux de Pékin. C'est une estimation là aussi. En tout cas, 50 milliards, c'est jugé très élevé. Et ce n'est pas un bon exemple, nous dit le comité international.
Je crois que le différentiel est plus marqué encore que ça.
Oui. Encore plus, oui. J'avance avec prudence sur ces chiffres qui sont sortis.
Mais ça dépend ce qu'on y met, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures en termes de transport, d'autoroutes, etc., etc. Mais moi, j'avais lu que c'était...
Ils ont vraiment créé une station, comme le disait je ne sais qui, ce que nous avons mis 150 ans à faire dans les Alpes.
C'est-à-dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour des Jeux d'hiver.
Voilà, et on peut parler du coût environnemental et social au passage.
Et après, il y a la Coupe du monde. Le foot au Qatar, dans la série des absurdités. Non mais c'est un bout du sujet.
Oui, on vient de s'apercevoir qu'il pourrait faire 50 degrés en été. Hein, oui. On revient donc sur l'économie de la Russie, qui n'est plus une des premières puissances économiques mondiales. Est-ce qu'on peut le dire comme elle l'était au temps de l'Union soviétique ? Ça, je crois qu'on peut l'affirmer déjà, qui n'a jamais vraiment été.
Le temps de l'Union soviétique était un temps quand même très particulier, je vous rappelle. Hein. C'était un empire déjà, et puis ensuite c'était une économie dirigée qui fabriquait beaucoup d'armes.
D'accord, on parlait d'une grande puissance mondiale, non ? Vous n'avez pas ce titre.
Oui, c'était une grande puissance géopolitique, indéniablement. Sur le plan économique, les comparaisons sont quand même assez complexes à faire. En termes de niveau de vie, par rapport aux États-Unis ou par rapport aux pays développés, je pense qu'il y avait
ça
quand même...
Ça n'a jamais été ça. Non,
en termes de niveau de vie, vous avez raison, mais si on prend en termes d'éducation, en termes de recherche, en termes d'innovation, c'était une grande... C'est ça qui... Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre présentation. C'était une grande puissance aussi économique.
De recherche, par exemple, non?
Oui, bien sûr.
En termes de capital humain, la Russie reste un pays qui est très bien éduqué. Donc les fondamentaux de ce point de vue sont bons.
Non.
Potentiellement.
Puis ce pays s'est implosé et s'est effondré. Et donc on est passé de ce qui quand même me paraît avoir été une grande puissance économique à un tout petit pays. À un moment, le PNB de la Russie était proche de celui de la Belgique. Je n'ai rien contre la Belgique, mais c'est quand même pas une grande puissance économique mondiale. Et on a depuis maintenant...
Il y a un petit phénomène monétaire derrière, qui est la chute du rouble. Donc,
eh bien, on va en parler.
Mais ce qu'il y a de frappant,
c'est
que... En
parité de pouvoir d'achat, ce n'est pas tout à fait vrai.
Ce qui est frappant, c'est qu'on a quand même eu une puissance économique qui a perdu énormément de son pouvoir et qui est en train, grâce en partie, largement aux matières premières en général, en train de regagner cette position, avec en plus un relais en termes de géopolitique dont on est obligé de dire quelques mots, ouais, qui fait qu'aujourd'hui la Russie est assez incontournable, me semble-t-il.
Oui, c'est indéniable. Mais...
Une économie donc qui est, là encore, vous serez d'accord, enfin j'espère, sur l'exploitation, qui est basée essentiellement sur l'exploitation de ses ressources naturelles, pétrole, gaz naturel, divers métaux, dont elle fait la pression que l'on sait sur ses voisins. Et qui donc, c'est pour cela que nous étions traités de ce sujet, serait aujourd'hui un peu en perte de vitesse et a passé donc une assez mauvaise année 2013. Le Fonds monétaire international a dû revoir à la baisse sa prévision de croissance pour cette année-là, passant de 3,4% à 1,5%. On rappelle qu'en 2012 et 2011, on était autour de 3 et 4% de croissance du PIB. Alors, ce n'est pas un indicateur suffisant, on l'a souvent dit ici, mais tout de même, la Russie doit mettre, nous dit le FMI, doit mettre en place des réformes pour augmenter son potentiel de croissance. Surtout ceci, vous avez regardé de plus près.
Le FMI dit ça pour beaucoup de pays quand même.
Il le dit pour beaucoup de pays.
Le fait qu'il le dise
pour la
Russie.
Je suis d'accord, c'est pas forcément un bon point de départ, je vous l'accorde.
Cette phrase se retrouve dans un nombre de pages du FMI, c'est incroyable.
On le voit pour la France aussi.
Alors, si je pourrais relayer un certain nombre d'analyses d'un économiste russe qui se trouve en France, Sergueï Gouraïev, qui est professeur à Sciences Po. Donc, ce qui est intéressant, en effet, c'est que
nous aurions pu inviter, mais il n'est pas francophone.
Il n'est pas encore francophone.
Alors, vous allez relayer ses analyses.
Il va très certainement le devenir. Une chose intéressante, c'est qu'en effet, par rapport aux autres BRICS, aux autres pays émergents, la Russie a eu une très très mauvaise crise. La croissance s'est vraiment effondrée. Mais il faut se rappeler qu'avant... Avant 2008, la croissance en Russie atteignait des taux très élevés, de l'ordre de 8%, quasi chinois. Et c'est ce qui a fait quand même un peu le succès de Poutine. C'est-à-dire que même s'il y avait beaucoup de problèmes, la croissance était là. Et il y a eu une diminution du taux de pauvreté, du taux de chômage, etc. etc. Mais cette croissance, elle n'était pas fondée sur, en particulier, une croissance de la productivité. Et contrairement par exemple à la Chine, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où en effet la croissance c'est vraiment patine. Il y a un problème en effet évidemment du prix du pétrole et c'est une économie qui reste avec beaucoup de problèmes de gouvernance, évidemment avec tous les problèmes de corruption qui sont gigantesques. Est-ce qu'ils sont plus importants ou moins importants que la Chine? C'est difficile à dire, mais en tout cas il n'y a pas ces gains de productivité qui permettent la croissance de la Chine et tous les gains de la croissance que pouvait avoir la Russie dans les années 2000 ont un peu disparu, en particulier donc ces gains de productivité.
Voilà pour une première analyse, Xavier Timbaud, puis Philippe Askenazy.
Je pense qu'il faut quand même vraiment rappeler et comprendre à quel point la Russie aujourd'hui dépend de l'énergie. Donc quand Poutine est arrivé au pouvoir, sa stratégie a été simple. Il a renationalisé les secteurs de l'énergie qui avaient été privatisés dans des conditions proprement scandaleuses, ce qui a donné lieu à tout un tas de mesures confiscatoires et attentatoires aux libertés, d'ailleurs en Russie. Mm-hmm. Le milliardaire Khodorkovsky en est un des exemples. Il avait fait fortune avec Helsinki. et il a tout perdu avec Poutine.
Qui a souhaité se débarrasser de lui.
Poutine. C'est la moitié du budget. Hein.
Voilà, alors aujourd'hui, les recettes pétrolières sont effectivement la moitié du budget. Et quand Poutine a fait son opération de nationalisation, le prix du pétrole était très bas. Et pendant toutes les années 2000, le prix du pétrole est passé en gros de 20 dollars à 100 dollars. Donc, ça a été évidemment un moteur fantastique à la fois de croissance, d'alimentation de la corruption, et aussi, il faut le reconnaître, de mesures sociales qui visaient à acheter la paix sociale en distribuant cette rente pétrolière. Bon voilà, aujourd'hui, la Russie se trouve dans une situation qui est plusieurs fois complexe. Alors, elle fait face à un tassement des prix de l'énergie. Le prix du pétrole n'augmente plus comme il augmentait dans les années 2000. Il reste à un niveau élevé.
Mais oui, tassement à un niveau élevé quand même.
Alors, ceci étant dit, la dépendance à l'énergie de la Russie est telle que si le prix du pétrole passe en dessous de 90 dollars, 95 dollars, ça pose des problèmes très importants à son budget. Donc il y a une dépendance conjoncturelle au prix du pétrole qui est extrêmement forte. Ce qui s'est produit en 2008-2009, parce que le prix du pétrole est passé effectivement en dessous de 90 dollars. Et là, la Russie a failli imploser, se retrouver en faillite, littéralement. Donc avec un pétrole à 70 dollars, la Russie est en faillite. Et ça, c'est une fragilité.
Elle a une dette publique très faible, hein, 10% du PIB, en particulier parce qu'elle a fait défaut sur sa dette en 98. Donc elle est dans une situation en termes budgétaires qui n'est pas dramatique de ce point de vue.
Si, parce qu'elle ne peut plus payer ses dépenses courantes. C'est-à-dire qu'elle se retrouve avec un déficit qui est considérable.
Les deux sont vrais. Objectivement, la dette publique est très faible et en même temps, un des problèmes actuels de la Russie, c'est qu'elle est très dépendante du pétrole. Mais ce qui rend les choses un peu moins inquiétantes, parce que pour moi, c'est pas l'inquiétude majeure sur la Russie. La dépendance pétrolière est trop forte, mais les prix du pétrole, ils vont pas s'effondrer. Enfin, je veux dire, tel qu'on voit les évolutions. Moi, les problèmes, ils sont de trois ordres. C'est un, démographie. Deux, infrastructures. Trois, sous-investissement. C'est-à-dire, c'est bien au-delà des problèmes énergétiques. Pardon.
Sur la démographie, juste un mot. On nous dit que Vladimir Poutine envisage justement, compte tenu de cette situation qui devient plus difficile, de couper dans les dépenses sociales et, par exemple, de supprimer la prime à la maternité, près de 10 000 euros qui étaient offerts aux femmes à la naissance du deuxième enfant et au-delà. C'est une prime qui avait été introduite en 2007 pour lutter contre la démographie déclinante. Le dis parce que cette situation est extrêmement préoccupante. Voilà. Je voulais qu'on assiste sur le plan social et sur la situation dans la population. Et le niveau d'espérance de vie qui n'est pas excellent, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais en partie parce que le problème de l'alcoolisme et du tabagisme pour les hommes est extrêmement important.
Donc des coupes dans les dépenses sociales ne seraient pas bienvenues. Xavier Tabot.
Juste pour terminer sur la question de l'énergie, parce qu'il y a des éléments qui sont importants à saisir, c'est que elle est très dépendante au prix du pétrole. Effectivement, le prix du pétrole risque peu de s'effondrer radicalement, mais il y a quand même une dépendance conjoncturelle au prix du pétrole. Ensuite, la Russie est aujourd'hui très dépendante, dans une situation complexe, parce que l'Europe en particulier veut se dégager de sa dépendance à l'énergie russe et au gaz russe. Le gaz liquéfié est un des moyens, le gaz de schiste en est un autre. Les énergies renouvelables en sont un troisième élément. Donc, ce qui pousse la Russie à devoir aller trouver d'autres partenaires commerciaux, en particulier vers l'Asie, pour essayer d'écouler sa production. Et puis, le troisième problème auquel fait face la Russie, c'est que ses champs de pétrole traditionnels étaient le résultat d'investissements des années 80-90, qui ont été exploités pendant les années Poutine, avec peu d'investissements vers les nouvelles ressources pétrolières. Alors que la Russie entreprend aujourd'hui, mais qui se font à des coûts qui sont bien plus importants que les coûts qui étaient ceux sur les champs actuels. Ce qui fait que la Russie se trouve prise dans une espèce de course à l'investissement, sans être véritablement sûre de pouvoir en assumer tous les coûts. Et alors par ailleurs, cette course à l'investissement, vous vous rappelez peut-être de l'épisode Greenpeace et du séquestre et de l'emprisonnement de militants de Greenpeace par la Russie, mais ça illustre cette fébrilité de la Russie vis-à-vis des questions sur les ressources naturelles, parce que toute l'affaire était autour d'une plateforme pétrolière dans l'Arctique et des nouvelles frontières que cela ouvre en matière d'exploitation de ressources fossiles. Voilà, la Russie est face à une situation qui est sur sa stratégie économique de continuer sur la dépendance au pétrole, d'exploiter au maximum ses ressources, mais dans des conditions de coûts qui sont assez incertaines et dans des conditions géopolitiques qui sont elles aussi de plus en plus complexes et qui induisent des coûts supplémentaires pour la Russie et donc qui font que les choses sont plus aussi faciles que pendant les années 2000.
C'était l'analyse de Xavier Timbaud, la voix de Philippe Askenazy pour...
Oui, alors je ne suis pas spécialiste de la Russie, mais je vais un petit peu comme Philippe Martin me faire aussi l'écho de travaux d'économistes russes qui viennent en France, décidément, enfin peut-être ils fuient Vladimir Poutine, on va dire. Voilà. Donc effectivement, à l'école d'économie de Paris, Katarina Zoeskaya est arrivée l'année dernière, c'est une des grandes spécialistes de l'économie russe. Elle aussi n'est pas totalement francophone, mais on pourra peut-être dans un ou deux ans l'inviter à l'émission. Elle va sortir un ouvrage.
Elle va publier un livre voilà,
voilà,
au mois de mars.
Elle va sortir un ouvrage au mois de mars en français, parce qu'il a été traduit en français, sur le fédéralisme russe. Puisque à côté des analyses sur les matières premières, sur même les questions de corruption, il y a des problématiques fondamentales qui touchent un pays comme la Russie, qui est en fait un continent en soi et qui impose une structure fédérale. On ne peut pas avoir un État purement centralisé. Et les travaux de Katerina Zoeskaya montrent les différents essais, les échecs en quelque sorte, autour de la construction d'un fédéralisme russe. D'abord l'échec de Eltsine qui a fait une très forte décentralisation et qui s'est retrouvé finalement avec une constellation d'États qui ont joué les uns contre les autres. On avait donc des gouverneurs qui étaient élus, mais qui, par exemple, c'était assez spectaculaire de voir que les rentrées d'impôts locaux étaient excellentes, alors que les rentrées d'impôts fédéraux étaient très mauvaises. Donc il y avait un jeu qui était qu'on appauvrissait l'État fédéral pour pouvoir renforcer chacun des États locaux. Et compte tenu des très fortes inégalités qu'il y a entre les différentes provinces de la Russie, on avait un dysfonctionnement de la décentralisation russe. Et de fait, Poutine a appliqué d'une certaine manière une grille qu'avait pu avoir le FMI, un document de Blanchard et Schleifer, Olivier Blanchard qui est actuellement donc le chef économiste du FMI, un document de 2001 où justement il appelle à une recentralisation, et ce que Poutine appelle la verticalité du pouvoir. Et une grande partie finalement d'éléments qu'on peut sentir de recul démocratique ou tout du moins de centralisation vient de la prise en compte des échecs sous Poutine. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'élection des gouverneurs de province. C'est directement Poutine qui les nomme. Et d'une certaine manière, il voulait copier un système chinois où les gouverneurs sont nommés avec un critère essentiel qui est celui d'obtenir la plus forte croissance économique. Le problème, c'est que la Russie n'est pas aussi avec un parti purement unique comme comme la Chine. Et donc, le principal élément de choix d'un gouverneur, ou plus du moins de maintien d'un gouverneur, c'est non pas ses capacités de faire prospérer la province dont il s'occupe, mais de s'assurer que Russie Unie, qui est le parti de Poutine, obtienne les meilleurs scores localement. Donc, lorsque on a une situation qui est insuffisamment démocratique, eh bien, on a un dysfonctionnement d'un mécanisme fédéral avec, au niveau local, des sous-investissements, notamment dans les biens publics, dans les infrastructures, on en a déjà parlé, qui font que cette économie structurellement patine, alors même qu'elle dispose d'avantages absolument considérables. Donc, il y a véritablement une problématique sur le mode de fédéralisme. Oui. Or là, si vous voulez, on a des théories depuis longtemps. Hayek, par exemple, avait réfléchi sur quelles pouvaient être les conditions nécessaires de fonctionnement d'une bonne fédération. Et un des éléments essentiels, c'est l'obligation pour les gouvernements sous nationaux, enfin, ou des provinces, de rendre compte aux populations. Donc, une élection démocratique, une libre circulation des électeurs et en même temps un État fédéral qui soit suffisamment fort pour éviter des concurrences entre régions.
Et le compte n'y est pas, c'est une analyse tout à fait intéressante et assez originale aussi par rapport à ce que nous entendons sur ce pays, Philippe Martin.
Je crois que l'économie politique en Russie est absolument essentielle, ce qui fait que d'ailleurs beaucoup d'économistes russes maintenant travaillent énormément sur cette question de l'économie politique, la corruption, le problème du fédéralisme.
On n'a pas cité la corruption, merci de mentionner.
Mais la corruption, c'est important parce des raisons pour lesquelles vous avez un problème d'investissement toujours très bas en Russie, à la fois des investisseurs étrangers, hein, puisqu'il y a un gros problème sur les investisseurs étrangers, mais aussi des investisseurs domestiques, c'est que en Russie,
les
droits de propriété
sont
pas très bien définis. Puisque si vous réussissez, il n'est pas évident que vous ayez les dividendes de votre réussite, puisque les droits de propriété ne sont pas complètement clairs en Russie.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Donc, donc de ce point de vue, quand vous êtes un investisseur étranger ou russe, vous vous posez la question si vous voulez vraiment
investir dans ce
pays. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on a aujourd'hui beaucoup de flux sortants de capitaux parce que les investisseurs n'ont pas confiance.
Ce qui est intéressant sur cette difficulté vis-à-vis des droits de propriété, c'est que c'est en grande partie issu de la façon dont l'économie russe a été privatisée au milieu des années 90. Et c'est ça qui a créé un sentiment d'illégitimité sur la propriété privée en Russie. Ouais. Et qui se paye aujourd'hui. Alors, la situation n'est pas mieux parce que ça s'est traduit par des confiscations.
Oui, parce que la nationalisation n'a pas arrêté la corruption.
Non-investissement.
Mais c'est vraiment quelque chose qui a été amorcé dans les années 90 et qui aujourd'hui porte ses fruits en quelque sorte.
Ouais, non-investissement et fuite des capitaux aussi. Hein. Oui, il y en a pas mal qui s'en vont.
Fuite des capitaux, qui est extrêmement important.
Moi, je voulais donner une note.
À Chypre.
Une note d'optimisme. La Russie, c'est un pays parfaitement rentier, comme l'Arabie Saoudite et l'Algérie, dans d'autres genres différents. C'est-à-dire qu'on a un gros paquet de sous, et que ce paquet ne va pas se dissoudre, on ne fait pas de réforme. Et donc, ce qui se voit de manière aveuglante, mais... J'ai bien dit que j'allais être optimiste. Faiblesse des infrastructures, sous-investissement et corruption. Juste un mot sur la corruption. Il semblerait, je ne suis pas spécialiste mondial de la Russie, mais il semblerait que Eltsine ait, dans ce domaine-là, une politique assez volontariste. Et j'ai été frappé par le fait qu'il analyse ce sujet en disant dans le classement mondial qui s'appelle Doing Business, où on analyse la facilité à travailler dans un pays, la Russie est aujourd'hui 118e sur 186, donc c'est quand même pas terrible, pour des raisons de corruption, de droits de propriété et tout ce qu'on a déjà évoqué. Et l'objectif de Poutine, c'est de passer à la 20e place. Et dans ce domaine-là, il a mis en place depuis 3 ou 4 ans un certain nombre de réformes pour essayer de lutter contre au moins une partie de la corruption. Je dis pas
mais
tout.
Ce que je comprends, c'est que ça patine et que justement les investisseurs étrangers n'ont pas beaucoup confiance dans cette promesse de Poutine qui apparemment ne tient pas ses promesses, justement.
Sochi, ce sera dans un mois. On verra s'il y aura un impact économique sur la situation de l'économie de ce toujours grand pays. Quand même, merci à tous pour vos analyses. Est-ce que nous avons le temps, de quelques actualités invisibles qui en a prévues, préparées ? Et qui veut commencer, Xavier Tabot ?
Dans le cadre des bonnes résolutions pour l'année 2014, puisqu'on est encore dans cette période-là,
s'il vous plaît.
Je constate que James Cameron vient de faire le lien entre le changement climatique et les événements climatique extrême que, par exemple, le Royaume-Uni a subi. Il a été, d'ailleurs, en cela appuyé par quelques scientifiques éminents au Royaume-Uni. Le conseiller scientifique de Barack Obama a établi le même lien, cette fois-ci entre la vague de froid qui vient de toucher la côte est, exceptionnelle, les moins 50 degrés qui ont été observés dans certains endroits, enfin entre moins...
Ressenti, on nous a beaucoup dit ressenti.
Avec là aussi un lien qui est fait avec le changement climatique. Donc je constate avec plaisir que peut-être que dans les bonnes résolutions de l'année 2014, il y aura lutter contre le changement climatique.
Enfin. Olivier Passerey, mais ça reste une actualité.
La conférence sur le climat à Paris en 2015 sera aussi l'occasion de mettre en pratique ces bonnes résolutions avec un marché, par exemple, du carbone mondial, un protocole Kyoto qui fonctionne et qui est appliqué par tous les pays.
Je signale quand même aux auditeurs que Xavier Tabot sourit en parlant.
Sourit
de contentement, c'est ça.
De contentement à l'idée qu'enfin les plus puissants de cette planète prennent ce sujet au sérieux.
Ou bien vous restez sceptique. Olivier Pastret.
Le feuilleton des empreintes toxiques, on savait que les collectivités locales avaient un problème majeur en matière de financement, parce qu'ils avaient contracté des emprunts qui paraissaient très bien et qui après avaient des taux d'intérêt qui explosaient. Et bien on vient de découvrir là, très récemment que c'est vrai aussi pour les hôpitaux. Ça représente 1,5 milliard d'euros d'emprunts qui sont... quasiment irremboursable, c'est-à-dire 5% des encours d'endettement des hôpitaux. C'est intéressant de constater que nos petits camarades banquiers ont dérivé aussi dans ce type de financement. Et évidemment, ça ne favorise pas la réduction du déficit de la sécurité sociale.
Merci Olivier Passeret. Philippe Martin, vous avez aussi une actualité
très court,
moins visible.
Garnier qui appartient à L'Oréal, on a parlé des pays émergents, se retire de Chine. En particulier parce que ce marché est très compétitif. On oublie souvent que les marchés émergents sont pas des marchés, c'est pas des marchés d'Eldorado et que c'est des marchés extrêmement difficiles. Et donc là, on en a un exemple. Donc là, voilà, le marché chinois ne le vaut pas bien finalement. Et donc il se retouille.
Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, on nous donne souvent une impression inverse. Enfin, Philippe Askenazy, à
votre
tour.
Oui, un petit mot, puisque Xavier Tembo parlait de Cameron en Grande-Bretagne. Je pense malheureusement qu'il va avoir d'autres préoccupations. Donc, parmi les préoccupations, il y a la remontée de la livre actuellement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs pour la France, puisque c'est un de nos principaux marchés d'exportation. Alors, pourquoi il y a cette remontée de la livre? Parce qu'il y a une anticipation d'une remontée des taux d'intérêt de la Banque centrale britannique pour éviter l'apparition de bulles comme la bulle immobilière, et donc il va falloir gérer une situation où, avec une reprise à peine naissante, des freins vont être apportés à l'économie. Donc peut-être il peut espérer effectivement que dans la lutte contre le changement climatique, il trouvera un relais de croissance.
Quatre actualités invisibles signalées par Philippe Askenazy, Philippe Martin, Xavier Tembo, Olivier Pastrec. Je remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, et également merci à Ghislaine David qui réalisait notre émission en compagnie d'Alexandre Dang, et bien sûr à Laurence Genepin pour la préparation et la documentation. Un petit salut à nos partenaires d'Ecofutur dans Libération chaque lundi. Et puis venez nous voir sur notre site, apportez vos commentaires, ils sont aussi les bienvenus. Nous cédons la place à Dominique Souchier. C'est une fois pour toutes. Très bonne journée à tous.